Tu écoutes CFLC Balado,
la radio de ton magazine qui fout la chienne,
avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy, disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Bonsoir Pierre Duquet.
Bonsoir Lucas Jalbert. On dit bonsoir, ça peut être bonjour, ça
oui,
peut
c'est
être bonne
vrai,
nuit.
On a l'habitude de faire ça, les lumières tamisées dans l'ombre et tout ça.
Alors, où les gens nous écoutent ou téléchargent notre balado,
Alors,
sur Balado Québec.
Exactement. Alors, bienvenue à CFLC Balado, la radio de ton magazine qui fout la chienne. Évidemment, donc, c'est une branche connexe au magazine Ça fout la chienne, donc.
Dirigé vers les jeunes, évidemment.
Oui.
Mais on s'intéresse aussi, nous, aux parents qui gravitent autour des enfants, mettons.
Et, effectivement, puis en même temps, ça fait découvrir... une large palette d'horizons pour les jeunes.
Oh, ils sont capables d'en prendre.
Ah oui, absolument.
Alors, c'est ça. Moi je m'attaque dans ce balado-ci aux maisons hantées, qu'on appelle la hantise.
Oui.
Et ça, je sais que les jeunes adorent ça.
Ça va être hyper intéressant.
Mais je vous précise quand même qu'il ne s'agit pas de châteaux, de vieilles maisons rabougries. Ce sont des cas dans la région de Québec.
Répertoriés.
Ça peut être dans des roulottes mobiles, ça peut être dans des appartements, des maisons plus ou moins anciennes.
Génial. Et moi, évidemment, je vais m'approcher de ce que tu vas nous raconter. Je vais me puiser. Je vais aller puiser un peu côté cinéma pour faire redécouvrir le cinéma de genre aux jeunes et aux parents aussi. Et tout en me rapportant ce que tu vas nous choisir comme thème. Donc, ce mois-ci, donc, c'est les maisons hantées. Donc, je vais vous faire un petit retour en arrière sur le cinéma des maisons hantées. Et je vous ai choisi deux films en particulier qui ont marqué leur décennie.
Et mon petit doigt me dit qu'on parlera d'Amityville.
Je ne sais trop.
On verra.
Alors, on va se lancer immédiatement avec l'actualité qui fout la chienne.
L'actualité qui fout la chienne. Qui fout la chienne.
Habituellement, je parle des actualités entourant le milieu de l'horreur, de l'épouvante, fantastique, etc. Mais ce mois-ci, Pierre, tu as une petite actualité. Je te laisse commencer cette chronique.
Ça. C'est en rapport avec notre premier balado officiel.
Oui.
Où il était question des ovnis. Et là, j'ai vu apparaître dans un quotidien de Québec une nouvelle disant « Les Québécois demeurent les champions de l'observation des ovnis ».
Oh.
Après une année record en 2017, les Québécois sont parvenus à maintenir leur titre de champion de l'observation d'OVNI au pays en 2018, démontre un rapport de l'organisme Ufology Research, ramené dans l'actualité à l'occasion de la Journée mondiale des OVNI qui se tenait il y a un mois exactement, le 2 juillet.
Ah, génial. Est-ce que c'était suivi d'une petite caisse 24 de bière? Je sais que les Québécois sont aussi champions.
Oui, il y a ça.
Ça peut aider pour voir des observations.
Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils aient signalé un étrange vaisseau d'une dizaine de mètres de diamètre aperçu à Val-d'Or. Où trois étranges objets en forme de cigare aperçus au-dessus de Montréal, des Québécois des quatre coins de la province ont multiplié les signalements de formes, de lumières, d'objets énigmatiques aperçus dans le ciel au cours de la dernière année. Alors, donc, on parle du rapport de 2018, donc c'est l'an dernier.
C'est tout frais.
Et en effet, sur les 931 signalements compilés à la grandeur du pays par Ufology Research, pas moins de 382 provenaient du Québec, soit 41% du total, et un nombre impressionnant considérant que la province n'abrite que 22,6% de la population du pays. Alors, on est bon
dans les
ovnis. Et à eux seuls, les Montréalais ont signalé au moins 84 ovnis, ce qui fait de la métropole la ville où ont été observés le plus d'objets mystérieux, tout juste devant Toronto, 82. Quand même. Alors, donc il y a quasiment un équilibre entre les francophones et les anglophones.
Donc, Montréal, champion des cônes oranges et des...
Et des ovnis. Environ 5% de toutes les observations finalement ont été classées comme étant inexpliquées. Et le nombre d'ovnis signalés au pays a d'ailleurs chuté d'environ 15% entre 2017 et 2018 lors de la précédente compilation réalisée toujours par Ufology Research. L'organisme manitobain avait dénombré 1101 observations, dont 47% avaient été réalisées au Québec.
Génial. Alors, voilà. Génial. C'est assez étonnant.
Alors, mais est-ce que tu en as vu, toi, en 2018?
Non.
Non, moi non plus.
Bon, on fait pas partie de la gang.
Mais là, c'est vrai que... est-ce que le pote était déjà légalisé?
Ouais, ben c'est ça, là, effectivement. C'est arrivé en octobre, le pote, l'année dernière.
Ouais, on va en avoir plus. Pour moi, le rapport de 2019, ça va être épouvantable.
Génial.
Alors, toi, t'as des actualités aussi qui concernent...
Oui, en fait, un peu plus le cinéma, le domaine de l'épouvante. Là, on est le 2 août. Les vacances continuent pour tout le monde. On profite de l'été. La semaine prochaine, à une semaine d'intervalle, donc le 9, vendredi le 9 août, va apparaître sur nos écrans le film Scary Stories to Tell in the Dark. Histoire effrayante à raconter dans le noir, réalisé par Guillermo del Toro. Alors, le synopsis, ça se déroule en 1968 aux États-Unis. On sent un vent de changement qui ne s'est pas propagé jusqu'à la petite ville de Mill Valley, où pendant des générations, le spectre de la famille Bellows s'est imposé. Dans leur manoir, en bordure de la ville, Sarah, une jeune fille qui garde d'horribles secrets, écrit une série d'histoires effrayantes sur sa vie torturée. Des histoires qui transcendent le temps et qui peuvent devenir dangereusement réelles pour un groupe d'adolescents qui découvrent les terrifiants récits de Sarah. Donc, j'ai vu la bande-annonce au cinéma à quelques reprises. Ça semble fameux, évidemment, par Del Toro aux commandes. On s'attend à quelque chose de vraiment
évidemment,
fascinant.
Évidemment, c'est dans un manoir. Hein? Ça ne peut pas se passer ailleurs.
Je vous en parlerai tout à l'heure.
C'est un petit
2,5. Ben non, effectivement, on verra jamais ça.
Ouais.
La convention Fan Expo Canada, qui célèbre ses 25 ans cette année, du 22 au 25 août prochain au Metro Toronto Convention Center, annonce ses invités depuis quelques semaines déjà. Et côté horreur, bon, il y avait peu d'artistes annoncés, mais étonnamment, ils ont lâché sur les réseaux sociaux une petite bombe, Mia Farrow.
Ah,
tu te souviens,
oui?
Pierre?
Ah oui,
ça des célébrations.
Le bébé de Rosemary.
The Rosemary Baby de Roman Polanski.
Tu te souviens
de sera donc sur place, elle qui sort très rarement dans ce genre d'événement, donc va être là. Oui,
parce qu'elle est plus jeune, Mia Farrow.
Ben non, tout à fait, là j'ai pas son âge, mais bref, elle sera sur place, une chance unique pour les fans canadiens de la rencontrer. Les billets sont toujours en vente. Orion Pictures développe un film sur le personnage de Momo.
Momo, c'est quoi ça?
C'est quoi ce Momo?
C'est un film français, ça? Alors Momo, on va prendre...
On va prendre un café.
Un petit café.
Au bistrot du coin.
Ouais, c'est ça.
Donc, en fait, c'est le canular, une légende urbaine qui est apparue sur les médias sociaux durant toute l'année 2018, aussi sur les cellulaires. Donc, c'est une photographie d'une sculpture japonaise et qui avait qui avait une légende et qui devait contacter les jeunes pour inciter à accomplir certaines tâches dangereuses.
Les yeux horribles, là.
Ouais, c'est ça. Regarde-moi le visage.
Ah ben oui, mais ça c'est une déformation d'Instagram, je sais pas quoi.
Mais non, mais en fait c'est une sculpture, c'est une statuette qui a été produite. À corps d'oiseau, je crois, mais avec ce visage-là, on dirait qu'ils ont essayé de déboucher le bol de toilette.
Toutes les jeunes femmes dont raffolent les jeunes hommes.
Ouais, voilà. Et donc, il va y avoir un film qui va sortir autour de ce fameux personnage. Les jeunes m'en parlaient beaucoup aussi quand ils savaient que je faisais des BD. « Ah, ouais. Tu sais quoi, Momo? » Ah ouais, ben là, je suis allé voir. Seigneur, j'ai pas dormi de la nuit.
Aussi, ils t'ont eu. C'est
oui,
toi
m'ont
qui
eu.
Ils t'ont foutu la chienne.
Autre source, peut-être sûre, mais en tout cas... C'est dans les projets, ça demeure un peu flou. Le film Halloween, qui est sorti l'année dernière avec Jamie Lee Curtis, donc pour les 40 ans après le film original de 78, eh bien, on annonce que pour 2020, en octobre, sortiraient deux suites consécutives. Donc, on irait voir la première suite et la seconde dans une salle tout à côté. Donc, c'est prévu pour octobre 2020, mais ça reste encore flou, c'est pas sûr, c'est des rumeurs, mais écoute, il y a des fans qui partent en délire. Oh, mon Dieu, deux suites, la même soirée, on s'est après deux films consécutifs, avec le retour de la bonne vieille Jamie Lee Curtis qu'on avait adorée dans True Lies avec Schwarzenegger alors qu'elle faisait son striptease. Tu
ah bon?
Non, t'avais-tu vu ce film-là?
J'ai loupé ça.
Et finalement, je sais pas, t'as sûrement vu la bande-annonce qui est sortie, mais la suite du fameux Shining Stephen King et aussi de Stanley Kubrick, Dr. Sleep. Donc, c'est le réalisateur Mike Flanagan qui se met à l'œuvre là-dessus et qui a recréé certaines séquences de l'Overlook Hotel. Donc, ça semble... On espère que ça va nous offrir un voyage mémorable et ludique. Ça sort le 30 octobre prochain. Évidemment, c'est des grosses pointures à chausser.
Tu m'as dit qu'il y a une seule séquence de
qui a été reprise
originale.
C'est la scène des ascenseurs avec le sang qui sort. Sinon, le reste a été reconstitué pour les besoins du nouveau film qui va suivre. Et on se rappelle que c'est le jeune Danny, Terrence, qu'on va suivre les aventures maintenant adultes. Et qui va qui aide je pense les
puis une jeune fille qui se comporte qui a les mêmes pouvoirs.
Exact.
Donc, j'espère qu'on va faire du bon travail avec ça parce que Kubrick est monté pas mal haut avec ça.
Et vraiment,
c'était l'histoire
un film culte
de Stephen King évidemment là. Et maintenant on va pénétrer dans les maisons hantées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas se retrouver à Addis Abeba ou à Tombouctou. Là. Tout se passe dans la région de Québec.
Mais c'est encore plus génial.
Et le fait le plus intéressant, donc il existe encore des traces sur YouTube qui a fait l'objet d'un remontage un peu dramatisé avec des images réelles tournées à ce moment-là. Ça se passait à Beauport en 1989. TVA à l'époque était sur place.
Je me souviens, j'y étais.
Moi, j'y étais.
Mais c'était ton collègue, hein, à l'époque.
Oui, c'est ça. J'ai travaillé à TVA quasiment à la même période, là, peut-être après, mais je n'avais pas entendu ça. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, cette histoire-là. J'ai dû louper le reportage. Quoi qu'il en soit, j'ai remonté le tout parce qu'il y avait un reportage en anglais dramatisé. Et il y a des Français qui se sont emparés de ce reportage. Et évidemment, ils ont fait de la narration par-dessus.
Oh, franchement.
Il y a une petite fillette là-dedans qui s'exprime, une québécoise. Quand je suis allé me coucher, mais là, il y a une traduction par une
j'allais faire de dos.
Oui, j'allais faire de dos. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, évidemment, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou sur Facebook où on illustre nos balados, vous allez voir les images de ça. Les images, c'est pas jojo parce que ça date de longtemps. Là.
C'est
un peu
délavé, VHS, là,
un peu délavé, mais le son est bon. J'y ai vu. Alors, on écoute ça.
Génial.
Quel phénomène se produit dans la maison?
Que le mur avance. Tiens, vous l'avez.
Aucune cause naturelle n'est mise en avant. Une explication paranormale est alors avancée. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage et depuis, sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme.
Les policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement.
Le plus surprenant, c'est qu'aucune raison rationnelle de nature géologique ou liée aux conduites d'eau et de gaz n'a pu être retenue. Un détail dérange, si l'esprit de ce voisin décédé était à l'origine d'une telle violence, comment expliquer que le centre du phénomène ne se trouve pas chez lui, mais un étage en dessous, à côté du lit de cette petite fille de 12 ans.
Vers 10 heures, j'ai été réveillée par un grand bruit. Quand j'ai vu le trou, je me suis enfuie le plus vite possible.
Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation.
Alors, c'est une histoire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu.
Le bloc appartement, oui,
c'est ça. Les gens ont été expulsés, je pense, parce que là, il y avait la petite fille d'en bas là, qui avait vu un trou dans le mur.
Oh, oui.
Bref, c'est assez spectaculaire. Et maintenant, je vais vous parler d'une dame que je ne connaissais pas. En faisant des recherches, j'ai trouvé un ouvrage d'elle. Elle en a fait plusieurs à travers les années. Et on va en reparler tout de suite après la pause.
Vous écoutez CFLC Balado sur Balado Québec. Vous pouvez nous regarder sur les pages Facebook, Ça fout la chienne, Capron Productions et celle de Pierre Duquet, et sur YouTube au même nom de chaîne.
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors Pierre, tu nous parlais.
Je vais commencer par une citation de Isaac Asimov Mireille Thibault, l'auteur dont on va parler des maisons hantées, a cru bon d'inscrire en début de son ouvrage. Isaac Asimov est quand même un scientifique, mais qui a fait beaucoup d'ouvrages de science-fiction, dont les fameux robots.
Okay.
C'est de lui qu'on tient le terme robotique, loi de la robotique, un robot peut pas faire mal à un humain, puis tata.
Okay.
Alors, les scientifiques, dit Asimov, doivent admettre qu'ils ne connaissent pas toutes les lois de la nature possible et qu'ils ne comprennent même pas toutes les implications et toutes les limites de celles dont ils affirment l'existence. Au-delà de notre savoir, il y a bien de la place pour des phénomènes qui semblent surnaturels à notre faible entendement et qui pourtant se produisent. Non, mais c'est quand même bien venant d'Asimov, elle avait cité en introduction de son ouvrage. Donc, Mireille Thibault, je crois qu'elle est de Montmagny, a passé une bonne partie de sa vie là, à écrire de nombreux ouvrages sur le paranormal, tout ça. Et puis, je crois que c'est autour de 2014 qu'elle a livré un ouvrage intitulé « Les lieux hantés, le mystère élucidé » à partir de documents de recherche constitués de diverses enquêtes effectuées au cours des dernières années. Alors, elle a procédé comme on procéderait pour faire une thèse ou un doctorat, là, de façon quand même systématique. Et des lieux d'enquête ont été sélectionnés par un ensemble d'environ 70 cas possibles. Et un premier choix, explique l'auteur, a d'abord été fait en considérant le nombre nombre de manifestations décrites, il devait y avoir un nombre suffisant pour que les données de la recherche puissent mener à la possibilité d'effectuer une étude valable. Donc, elle était partie très sérieusement. Une deuxième sélection a ensuite été faite pour obtenir un échantillonnage de différents lieux d'habitation qui permettrait de tenir compte des facteurs de comparaison. Madame Thibault a finalement retenu 3 résidences unifamiliales anciennes, 2 résidences unifamiliales récentes, 3 appartements, une maison mobile et une maison jumelée.
Bon, ben voici, mobile, appartement, on se détache des vieilles maisons.
Et les résidences choisies sont situées à Québec et ses environs. Okay. Et ce qu'on va faire maintenant, on va écouter mon montage dossier
des fantômes.
Mais je précise, comme je l'ai indiqué pour ceux qui verront le visuel, il y a un avertissement que les maisons illustrées là, ne correspondent pas au lieu.
Au fait raconté.
De Québec là, okay. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de photos dans son ouvrage, il n'y a pas de vidéo. Ouais. Alors j'ai pigé un peu partout des maisons pour donner l'impression d'une maison mobile que j'ai trouvée, etc. Okay. Alors, mais quand même, écoutez le contenu. Ça, c'est intéressant et on va faire le tour de quelques-unes de ces maisons-là et de ces cas-là.
On se retrouve tout de suite après.
Dossier. Phénomène étrange. La maison des Juliens. Cette résidence a été construite en 1890 dans un village de Portneuf. Les événements étranges qui ont eu lieu ont été observés dès l'arrivée des témoins dans cette maison et se sont poursuivis sur une période d'environ 2 ans. Il s'agit d'une famille reconstituée, composée de 2 enfants de Viviane et des 2 filles de son conjoint Alexis. Des parents en visite chez les Juliens ont aussi observé plusieurs manifestations. Odeur de pipe en provenance du sous-sol, l'éclairage de l'entrée arrière s'allume seul, occasionnellement. À plusieurs reprises, la porte du placard s'ouvre seule. La guitare de son conjoint émet des sons sans que personne ne l'ait même approché. Certains objets sont retrouvés déplacés. Viviane, alors qu'elle est seule, entend la porte arrière s'ouvrir et perçoit le bruit de pas d'un homme. Elle a aussi senti un coup frappé sous sa chaise pendant qu'elle se trouve assise à la cuisine. Une sensation d'une présence est souvent notée à divers endroits de la demeure. Il y a des bruits de chaises déplacées dans la cuisine. À une reprise, l'une des adolescentes de la maison voit son oreiller lancé au sol. La maison de l'ancienne Lorette. Il s'agit d'une maison d'une centaine d'années qui était une forge à l'origine. Solange y habite avec son père adoptif Gérald. Elle constate dès leur arrivée dans cette résidence qu'il y a des courants d'air froid, surtout dans sa chambre, dont il est impossible de déterminer l'origine. Elle y entend aussi des pleurs de femmes, ainsi que des coups frappés à la tête de son lit par une force inconnue. Les témoins perçoivent aussi des ombres de femmes. Solange se sent observée à certains moments. Elle voit apparaître un homme dans l'embrasure de sa chambre. Des bruits de meubles déplacés sont aussi entendus. Par la nuit, alors qu'elle est couchée sur le canapé, Solange entend les bruits de pas pesants aller et venir devant le sofa. Il semble assourdi par un tapis, bien que le plancher soit constitué de bois franc. La fille de Gérald, en visite dans la demeure, voit ses couvertures se soulever pour ensuite être tirées. Mais personne ne se trouve près d'elle. La maison de la famille Pinchot. Cette demeure unifamiliale, construite depuis une vingtaine d'années, est située dans le nord de la ville de Québec. Les phénomènes ont débuté près de 5 ans après l'arrivée de cette famille dans cette résidence et ont été observés de manière plus ou moins intensive sur une période de 3 ans. Parmi les événements décrits, Sylvia Pinchot mentionne qu'une table à dessin placée dans la chambre des enfants frappe seule contre le mur. De même, un bureau qui se trouve dans la même chambre est découvert, déplacé. À un autre moment, l'aspirateur commence à fonctionner seul. Un ballon gonflé à l'hélium, rapporté de l'école par Sébastien, descend et monte seul, comme s'il était dirigé par une force inconnue. L'appartement des Gingras. Cet appartement est situé dans un demi-sous-sol dans un immeuble de la ville de Québec. La famille Gingras y réside depuis quelques années. Les phénomènes observés datent depuis déjà 4 ou 5 ans, peu après leur arrivée sur les lieux. Mais depuis quelques mois, ils se font plus présents et les événements les plus intenses se produiront pendant une année pour cesser par la suite. Voici quelques-uns d'entre eux. Hélène Gingras sent une main lui caresser le dos alors qu'elle se trouve seule dans l'appartement. Une chaise berçante placée dans la cuisine se balance seule, puis une lueur est aperçue dans la chambre des parents. Une forme blanche est ensuite aperçue dans la cuisine. La jeune femme sent également que quelqu'un d'invisible déplace ses cheveux. À un certain moment, une odeur de parfum sent sur sa parente et perçue. Puis des sifflements et des pleurs d'enfants sont entendus. À une reprise, Patrice Gingras verra une ombre noire se déplacer et constatera que la radio fonctionne sans avoir été activée. La maison mobile des côtés. Cette maison mobile, installée sur pilotis, est construite depuis 6 ans. Elle est située dans un parc de maisons mobiles au nord de la ville de Québec. Mireille Thibault, l'auteur des présents récits, s'est rendue sur les lieux en compagnie de Lise, une médium, qui sera également témoin de certains phénomènes. Des craquements et des coups frappés sont souvent entendus également et des sensations de présence sont ressenties. Les serrures des portes se verrouillent et se déverrouillent seules. Un énorme coup frappé provenant du dessous de la maison, qui ne comporte pas de sous-sol ni de fondation, sera entendu par les occupants. La porte de la chambre du couple s'ouvre souvent seule et des courants d'air froid sont perçus, tout comme des odeurs d'encens. La jeune femme se sent également touchée aux hanches alors qu'elle se trouve seule dans la salle de bain. Pour sa part, Louis Côté éprouve une sensation de présence dans toute la maison ainsi qu'une sensation d'angoisse. En outre, l'auteur en compagnie de la médium entendront dans la chambre du couple un énorme soupir provenant du lit alors que personne ne s'y trouve.
Et toi, Lucas, tu nous plonges dans le cinéma des maisons hantées.
Oui, c'est la chronique cinémaniaque.
Cinémaniaque, la chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction.
Alors, avant de vous plonger dans les deux films que j'ai choisis, je vais vous faire un petit retour en arrière dans le genre de film de maison hantée qui a été abordé par le cinéma, le 7e art. En fait, le film de maison hantée fonctionne surtout lorsqu'il personnifie la maison. Elle devient un être total de l'histoire presque vivante. Les films les plus réussis sont souvent les premiers films anglais à tendance gothique, présentant des demeures ou grandiloquentes ou délabrées. Donc on parle effectivement de vieilles maisons tout délabrées, gothiques, etc. Et très tôt, la maison hantée fascine et devient le lieu de tous les fantasmes et cauchemars. Parmi les productions les plus marquantes, on retrouve La nuit de tous les mystères de William Castle avec Vincent Price en 1959 ou encore La maison du diable de Robert Wise en 63. Durant ces années, le film de maison hantée devient presque un genre à part entière et le véritable héros de l'histoire, c'est la maison.
Moi, je me souviens d'en avoir vu un film, probablement quand j'étais jeune en noir et blanc, là, qui devait venir des années 50, ouais. Et qu'on commençait à présenter à la télé, là, puis ça m'avait impressionné.
C'est
il y avait une ombre blanche et il se promenait dans l'escalier.
Oh là là. C'est ça, mais la maison, c'est elle qui effraie de par son aspect, mais aussi de par les éléments qui se déroulent à l'intérieur. Donc toi, tu me parles d'une ombre blanche qui se déplace, un chandelier qui bouge tout seul, les rideaux, hein, c'est bon. Depuis quelque temps, ce genre a baissé à cause d'un traitement trop binaire, voire inexistant de la maison en elle-même. On préfère s'intéresser aux personnages ou aux effets gore, qui vont en découler, et le côté angoissant a laissé la place à un côté horreur popcorn qui ne fonctionne pas avec ce genre de métrage. Du coup, on tombe plutôt dans le film d'horreur assez frontal, délaissant le fantôme hanteur pour le tueur psychotique là, qui se cache quelque part en dessous de l'escalier. Ouais. Donc moi, ce que j'aime, j'ai toujours dit, j'aime le cinéma d'ambiance, d'angoisse, la latence, on prend le temps de poser les trucs et de voir la maison en elle-même. Néanmoins, chaque décennie possède son petit film de maison hantée bien troussée. À la fin des années 70, on retrouve le culte Amityville, la maison du diable, dont je vais vous parler dans quelques instants. Un peu plus tard, il y a eu Poltergeist, Shining avec Stanley Kubrick. Évidemment, c'est l'Overlook Hotel où se passaient les événements. Au début des mi-années 2000, Paranormal Activity. Donc, on tombe dans le found footage, le film filmé. Bon, c'était les caméras de sécurité dans la maison, le couple qui veut filmer ce qui se passe la nuit parce qu'il se réveille le matin, il retrouve des trucs déplacés dans la maison, etc. Fait que là, c'est les caméras de surveillance. Puis là, ce qu'on voit dans les caméras à l'époque, là, quand c'est arrivé, moi, j'ai eu la chienne.
Là, effectivement. On pensait tout ça se passe pendant que nous dormons.
C'est ça. Et le premier était génial. Évidemment, bon, on en a fait une franchise. On a dilué le sujet sur plusieurs films. Ça finit en catastrophe.
Et il y a eu le fameux projet Blair, là, qui était en forêt en grande partie, mais il y avait une maison hantée.
Exact. Une sorcière cachée au fond de la forêt. Ça, on remonte en 98. Et là, c'est ce qui a parti le bal du cinéma found footage, c'est-à-dire filmé caméra à la main. Et à l'époque.
Avec rien.
Avec rien. Écoute, je pense qu'ils ont fait ça avec quelques mille dollars.
Je pense que toi et moi, on aurait pu le faire.
Absolument.
Là, on serait riche aujourd'hui.
Dans le bois de Champagne, ici à Lévis.
On n'a pas été assez brillant.
Et écoute, ça, à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux. La promotion, ils l'ont fait par le biais de la télévision. Ils disaient qu'ils avaient retrouvé une cassette dans les bois d'une caméra. Ça, tout ça avait été manigancé, mais nous, on y croyait. Donc, ça a fait gonfler l'attente pour ce film-là. Ça avait été génial. Pour synthétiser tout ça, on peut dire que La Maison Hantée n'a pas fini de faire parler d'elle. Le dernier en date, The Conjuring, paru en 2013, a remis le tout en avant-plan, donc l'angoisse, l'attente, la latence. Évidemment, bon, écoute, il y a eu des spin-offs, puis des films, puis il y a un univers qui a été créé autour de ça, ce qui vient un peu diluer la chose, mais le premier est vraiment une réussite. Et ben voilà, de nos jours, on a un peu perdu l'habitude de faire des films insidieux au lent et lent au profit d'une action à outrance et d'un gore à plus soif, là. Donc ça, c'est ce que je regrette un peu, mais il y a encore des beaux petits bijoux ici.
Ouais,
ici,
j'en avais découvert d'ailleurs en louant des films plutôt européens.
Là, oui,
t'en avais parlé, je t'avais
absolument,
dit,
il y a des
je t'avais
bijoux.
Même envoyé un signal d'en regarder un,
hein, ouais.
qui était formidable. Alors c'était une grande maison aussi, mais c'était bien fait. Parce que là, j'en peux plus des films de maison en avec des monstres là, qui surgissent là, en synthétisé.
Ah oh oui, puis avec toujours les effets de les effets sonores qui arrivent là, bang, pour nous faire peur, mais pas, c'est juste pour nous faire peur, mais sans plus. Donc, il n'y a pas vraiment d'attente, il y a quelque chose qui se trame derrière, mais on ne l'avait pas remarqué au premier coup
mais
d'œil.
Mais le plus habile serait de faire un film où il n'y a pas de monstres du tout, il n'y a pas de fantômes, mais tu suggère tout le temps qu'il y a quelque chose d'arrive dans quelque part,
en fait,
sans montrer.
C'est ça. En fait, ce qui fait peur, c'est quand on voit pas la chose.
Ouais.
C'est que l'imagination travaille. Du moment que tu vois la bestiole à l'écran, là, moi, je décroche complètement. L'effet de surprise est passé.
Et tu dis au revoir.
Et je dis au revoir. Je quitte la salle et je me fais rembourser.
On présente tes deux films?
Tout à fait.
Pour ceux qui nous écoutent en illustration, évidemment, vous verrez quelque chose. Les autres, ben, écoutez le son.
Exactement. On remonte en 1979, Amityville, la maison du diable.
1979. Amityville. Le 13 novembre 1974, dans une maison bourgeoise, un jeune homme, dans un accès de démence, massacre ses parents, ses frères et ses sœurs. Quelque temps plus tard, cette maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence. La famille Lutz l'achète sans connaître la tragédie qui s'y est déroulée. Leur bonheur ne sera que de courte durée.
Te souviens-tu d'Amityville, Pierre?
Ben oui, et d'ailleurs, j'ai vu ça dans le temps, il y en a eu plusieurs par la suite,
ouais,
hein? Puis même dans mon dossier, on voit l'image de la maison.
La fameuse maison qui a été rachetée récemment, je pense encore.
Ah mon Dieu!
Oui, avec... Écoute, qui donnait une arme à la maison avait presque un visage, les fameuses fenêtres demi-lune en haut, la porte en bas, une grande... Bon, à n'en pas douter, bon, on est devant l'un des grands classiques du genre, Amityville, premier du nom, nous amène au cœur de l'horreur le 13 novembre 1974, inspiré de faits réels. Dès les premiers instants, l'ambiance est mise en place au milieu d'une maison sinistre. Comme pour de nombreux longs métrages datant de cette époque, la musique a un rôle majeur. Elle instaure une sensation oppressante et dérangeante, empêchant le spectateur d'être serein ou tranquille. Il est à l'affût à chaque instant, prêt là à sursauter. Cet épisode ne joue pas sur les effets spéciaux ou autres. C'est l'aspect psychologique qui prime. La peur et l'angoisse sont suggérés par des bruits, des attitudes, sont véhiculés par les personnages eux-mêmes. Tu te souviens la fameuse scène avec les mouches puis le curé là, dans la chambre, des mouches qui apparaissent partout, puis ils sauvent en courant. Ça. Si les protagonistes ont tous une importance, faut pas oublier que la maison qui a l'image de la bande son s'impose elle-même et effraie par son apparence. On a parlé des fenêtres et tout ça. Le déroulement de l'histoire suit un peu la trame de L'Exorciste, entre scènes terrifiantes et scènes d'enquête avec un policier et les hommes d'église. Amityville terrifie et rend mal à l'aise. Bon, évidemment, dommage pour la première heure qui souffre de longueurs inutiles. Moi, sincèrement, quand j'ai vu le film pour la première fois avec mes jeunes cousins à l'époque, on disait, mais ça va-tu finir?
Moi, à l'époque, on faisait des films qui s'étendaient. Hein?
Très lent. Très... Ouais. Mais as-tu remarqué que à partir des années 90-2000, on est tombé à des films d'une heure 20. 1h25. Et là, depuis les années mi-2000 jusqu'à aujourd'hui, on est rendu dans les 2h.
Revenez
à des films longs, plus longs. Oui. Et donc, mais ça, je suis pas contre.
Ouais.
Écoute, c'est. Les films très courts, c'est à cause de l'avènement du vidéoclip dans les années 80. Tout le monde voulait quelque chose de syncopé, vite, au but, le go. Donc, ce qui a ralenti, mais avant les années 80, on se souvient, les westerns de Sergio Leone à n'en plus finir. Donc, c'était
évidemment, on pouvait pas considérer dans cette catégorie l'exorciste parce que c'est un cas de possession et non pas de maison.
Hein, non, c'est ça. Mais donc,
c'est un chef-d'œuvre dans le...
Ah oui, absolument. Mais la comparaison entre scènes bon, d'épouvante, les scènes d'enquête, ouais, c'est ça, et du curé, des policiers, etc.
Une petite pause et on parle du suivant.
Absolument.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
On saute d'une année, 1980, The Changeling.
1980, The Changeling. L'enfant du diable. Un professeur de musique tourmenté par la mort de son épouse et de sa petite fille fauchée par un camion décide d'habiter une ancienne et vaste demeure. Très vite, celui-ci se rend compte que la maison est hantée par l'esprit d'un enfant assassiné. John Russell entreprend alors une enquête périlleuse qui va l'emmener jusque dans les hautes sphères politiques.
The Changeling, an experience beyond total fear.
Bon, alors, l'œuvre de Peter Medak emprunte d'abord au fantastique classique, celui précisément apparenté aux traditions gothiques et romantiques. De fait, la demeure hantée affiche une configuration labyrinthique conforme à celle de ses ancêtres frénétiques. Pièces imbriquées les unes au sein des autres, immenses bibliothèques, boiseries surchargées, épais tapis et gigantesques lustres caractérisant une résidence qui aurait tout aussi bien pu intervenir dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe, par exemple. Cette fidélité aux règles et esthétiques de l'épouvante traditionnelle soumet l'intrigue à un traitement relativement conventionnel, celui de l'investigation occulte. Donc, ce qui est d'emblée nous séduit dans cette œuvre, c'est la sobriété et les procédés classiques qui font toujours les bonnes heures du cinéma d'épouvante consacré aux maisons hantées. Une musique orchestrale qui anticipe en crescendo les moments d'angoisse, les chuchotements ténébreux et les objets qui se déplacent. Autant d'artifices souvent usités, mais toujours efficaces et qui font toujours autant là, sursauter. C'est vrai que c'est toujours gagnant, ça. Hein? Entendre la voix d'un enfant dans le haut d'un escalier.
Oui. Aide-moi, cours.
Tout ça, pour faire tourner la mayonnaise dans tout ça, il faut derrière tout ça, il y a une bonne mise en scène par le réalisateur qui orchestre très bien avec des acteurs convaincants. On va apprécier une nouvelle fois l'utilisation de la caméra subjective, l'alternance de plans rapprochés reflétant la terreur sur les visages ou des plans larges, ce que j'adore, étudier un peu à la Stanley Kubrick, les effets de perspective, les grands plans larges. Bon, une grande scène, y a-t-il quelque chose de terré quelque part dans le décor que tu vois pas tout de suite? Gestion permanente de la tension à l'instar de scènes de spiritisme avec un jeune enfant décédé qui est tout simplement terrifiant. Ça, c'est le point culminant du film que j'ai adoré. Ils font une scène de spiritisme autour d'une table ronde, le monsieur avec la diseuse de bonne aventure, okay. Puis à un moment donné, il arrive de quoi, puis il réécoute l'enregistrement, puis sur l'enregistrement, plus il augmente le son, il est capable d'entendre une voix qui était cachée derrière depuis le début.
Ça me fait penser au film avec Linda Kidman, là.
Avec qui? Nicole Kidman?
Ouais.
Les autres?
Ouais.
Elle est cachée dans sa maison avec ses enfants, ils ne doivent pas voir la lumière. Là, c'est
ça.
C'est génial.
Puis, on se fait traîner. Fait qu'en fait, on est...
On ne dit pas la fin. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais c'est un classique. Les enfants, allez voir ça.
Pause avant de vous dire adieu.
Adieu.
Tu croyais que l'expérience Ça fout la chienne n'était qu'un magazine? Détrompe-toi. C'est aussi une web-série qui vous raconte des histoires. Et sérieusement...
Ça fout la chienne.
Cabro Productions présente... Mettant en vedette la jeunesse d'ici. La websérie tirée du magazine Ça fout la chienne. Disponible sur Facebook et YouTube. Magazine avant qu'il ne t'attrape. Abonne-toi.
Bon, alors voilà, on est arrivé au bout de notre parcours.
Au bout de notre parcours, il reste la petite histoire qui fout la chienne, on s'installe autour du feu.
On avait la hantise de réaliser cette émission.
Alors, j'ai préparé... Bon, on s'installe, Pierre, autour du feu de camp, et je vous raconte une petite histoire qui nous fout la chienne avant de nous quitter.
Il est l'heure. L'heure de se faire peur, avec une histoire qui fout la chienne.
«
On connaît tous cette histoire. Vous descendez les escaliers, car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine. Mais arrivé là, vous vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère, mais cachée sous les escaliers. « Ne va pas dans la cuisine, dit-elle. Moi aussi, je l'ai entendue. » C'est juste une de ces histoires idiotes qu'on a entendues maintes fois. Mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardez votre mère sous l'escalier. Même maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'elle avait sur son visage. Elle tremblait de peur, le regard empli de terreur. « Viens ici, dit-elle, vite !» Mais de l'autre côté se tenait votre mère, dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange. Mais elle, elle était grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors, vous avez couru vers elle. Vous n'aviez que 4 ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre? Elle avait hésité quelques instants avant de vous enlacer en retour. Et à ce moment-là, la mère qui était sous les escaliers avait disparu. Pour toujours. Vous avez fait un choix. Vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous vous posez des questions. Votre mère vous regarde, quelquefois, avec une expression étrange, comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis, un jour, vous entrez à l'université. Elle vous regarde encore, curieusement, distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant, avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix? Avez-vous choisi la bonne mère? Et pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant?
Alors,
Tu les trouves où? Tu peux pas le dire, c'est un secret.
Un secret? Je les trouve dans le fond de mon garde-robe. Je les ai annotés au fil des ans.
Non, c'est bien fait.
Oui, c'est merci. Ouais, merci beaucoup. Ça. Alors, sur ce, merci de nous avoir écoutés pour une troisième émission, le troisième balado disponible dès maintenant que vous nous écoutez.
Ouais, c'est ça, Balado Québec.
Facebook.
Les Facebook, page Ça fout la chienne, oui. Cabro Productions,
oui.
La page de Pierre Duquet.
Oui.
Sur YouTube, la
exact,
même chose,
la même
Pierre
chose.
Duquet, Ça fout la chienne et Cabro Productions.
Exactement. On vous invite aussi à vous abonner au magazine Qui fout la chienne, évidemment. Concours pour les jeunes. N'hésitez pas, pour la première fois, il y en a qui se font publier, sont fous comme la merde. Et ce que les parents disent souvent, c'est qu'ils apprennent à attendre devant la porte que le facteur vienne porter le magazine aux 3 mois. Ils apprennent ils réapprennent à attendre. Ou ils apprennent tout court parce qu'ils n'ont jamais appris à attendre.
Tout courant parallèle.
Voilà. Et évidemment, il y a la web-série aussi.
Mais c'est
donc,
le fun, le phénomène que tu crées, attendre que le postier passe pour avoir sa revue au lieu de la télécharger.
On est rétro jusqu'à la boîte à mal.
J'ai plusieurs idées en tête pour dénicher des sujets.
Dis-moi-les rapidement parce qu'il va falloir que je fasse le tour de ma cinémathèque.
Je vais te le faire savoir.
D'accord. Alors sur ce, on vous dit... Au revoir.